Radio Foot International,
Antoine Grenier.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, Radio Foot. Deuxième mi-temps, quelle soirée de Ligue des Champions. On a eu droit à tout, des nuls. On parle de score final et de prestations parisiennes. Paris en grande difficulté contre Bruges et qui s'en sort presque bien avec un partout. La victoire du Real sur le fil contre l'Inter, un quasi-score de tennis 5-1 pour l'Ajax contre le Sporting. Pendant que Manchester City remporte lui son premier set 6-3 contre Leipzig. Et puis un Liverpool-Milan AC de haute volée achevé sur un 3-2 en faveur des Reds. On parlera aussi des autres Coupes d'Europe, la Ligue Europa qui démarre demain avec Marseille, Monaco et Lyon. Côté français, Rennes ira se faire les dents en Conference League, la toute nouvelle compétition européenne. Bonsoir Naïm Moniol.
Salut Antoine, salut à tous.
Vous avez eu le temps de choisir vos mots pour pas être trop dur envers les Parisiens?
Mais je les choisis toujours, mais là je les ai choisis d'autant plus que vous m'avez chaperonné toute la soirée. Quoi. mais cadré quoi.
Il n'y aura pas de superlatif ce soir.
Non, ça, certainement pas. Oui, Chérif Guémour,
pour le coup.
Souvent plutôt mesuré, mais pas sûr que vous acceptiez le costume d'avocat de la défense.
Ça va être dur. Bonsoir à tous.
On retrouvera bien sûr Hugo Moissonnier à Bruges, Maestro Salerno et Thomanette, David Finzel à la baguette. Radio Foot, le coup d'envoi, c'est maintenant.
Déboulé côté gauche de Kylian Mbappé, l'ouverture du score. L'ouverture du score parisienne, le déboulé côté gauche de Kylian Mbappé et la conclusion dans la surface. Herrera pratiquement au point de pénalty.
1-0 sur la pelouse du champion
belge. Les Brugeois se battent au cœur de question. Et Egalis Van Aken, le capitaine, l'idole des bleus et noirs, bien servi sur le côté gauche dans la surface. Et c'est mérité, le PSG et ses trois fantastiques ne peut s'en prendre qu'à lui-même.
On va pas se mentir, c'était pas le scénario envisagé ici dans le studio de Radio Foot, mais aussi certainement dans les esprits parisiens. Mais c'est bel et bien ce qui s'est passé. Un partout, le Paris Saint-Germain est bloqué d'entrée par Bruges, à Bruges, où on retrouve tout de suite Hugo Moissonnier, notre envoyé spécial qui vous a fait vivre cette rencontre. Bonsoir Hugo.
Bonsoir Antoine, bonsoir Naïm, bonsoir Chérif. En voyant la prestation parisienne, j'étais comme vous Antoine, j'ai eu très très peur de la réaction de Naïm Moniol. En fait, je suis un peu fébrile, je tremble des adjectifs. C'est quoi le contraire de superlatif du coup? Des mots en tout cas très péjoratifs qu'il va utiliser pour désigner les Parisiens ce soir.
N'ayez crainte.
Non, je pense qu'il sera honnête. Hugo, ce qu'on peut dire tout simplement, c'est que ce soir, Paris n'a pas vraiment été à la hauteur de l'événement.
Oui, vous maîtrisez la litote, l'art de la litote, mon cher Antoine. Effectivement, le PSG a déçu. On attendait ces trois fantastiques entrer sur le terrain tels des divinités modernes, la musique de la Ligue des Champions, un stade plein, et ça fait du bien de voir des stades pleins au passage en Ligue des Champions. On savait qu'il y avait un dispositif médiatique exceptionnel qui était mis en place, des caméras de la réalisation du diffuseur belge braqué, une caméra par fantastique si je puis dire, une caméra sur Messi, une sur Mbappé, une sur Neymar. Le PSG devait dérouler, devait lancer un message, envoyer un message à toute l'Europe, et finalement moi j'ai presque envie de vous parler de Noah Lang, de Van Aken, de Ketelaar. Qu'on avait des joueurs qu'on avait mentionnés tout à l'heure dans Radio Foot, hein, en fin d'après-midi. Donc finalement, on avait le nez creux et j'ai envie de vous parler de ces joueurs de Bruges, de leur plan collectif. Le football, il était belge ce soir, il n'était clairement pas franco-brésilo-argentin.
Et on va écouter le buteur parisien Ander Herrera au micro de nos confrères de beIN Sport. Ander Herrera qui ne veut pas tomber dans le catastrophisme tout de suite.
Je pense qu'on a fait suffisant pour gagner des matchs. On n'a pas joué un match fantastique, mais suffisant pour gagner les matchs. Mais on a manqué des occasions claires et ça c'est pourquoi on n'a pas gagné. Parce que je pense qu'on a eu le contrôle des matchs. Et peut-être au début de la deuxième mi-temps, ils ont créé un peu des occasions contre nous, mais je pense que la majorité des matchs, on a contrôlé les matchs, on a créé des occasions, mais c'est la Champions League, ils sont un gardien très bon aussi, et on a un poids pour commencer la compétition.
Naïm, on a fait ce qu'il fallait, on a contrôlé le match, on est loin du compte.
Non mais il est marteau, il est sous le choc, c'est pour ça qu'il dit ça, il le pense pas, mais... Comment est-ce qu'on peut avoir un discours pareil après très sincèrement, Paris a eu un temps fort de 10 minutes en première mi-temps et un temps fort sur les 10 dernières. Le reste du temps, c'est Bruges qui a contrôlé le ballon. Moi, j'ai rarement vu le milieu du PSG se faire manger. Hein, là, pour le coup, je choisis mes mots. Techniquement, on a tout vu, redoublement de passes, jeu en triangle, sortie en une touche, diagonale. Tout y est passé, l'éventail technique de joueurs qui sont très bons, mais qui ne sont certainement pas de la cabine du PSG. Le PSG s'est fait massacrer en première mi-temps, les latéraux sont inexistants. Wijnaldum, il n'a pas été bon, je vais lui laisser du temps, il vient d'arriver. Par contre, je pense qu'il va vite falloir trouver quelque chose sur les escroqueries Paredes et Kimpembe. Ça commence à faire longtemps que ça dure. Kimpembe, son début de saison est une horreur. Paredes, il joue uniquement parce qu'il est copain avec le chef et avec Neymar, avec les joueurs qui coûtent le plus cher. La force collective, en fait, ne peut pas reposer sur trois joueurs. Donc ce que le PSG a montré ce soir, c'est une prestation indigne. Ils n'ont rien contrôlé du tout, ils méritaient de perdre. Et je pense que même si c'est le premier match, même s'ils ne sont pas prêts, même si machin et bidule, on revient de telle et telle tournée, il faut d'entrée prendre des mesures qui s'imposent sur le 11 de départ. Poser les questions à l'entraîneur, ça fait 8 mois que vous êtes là, fond de jeu zéro, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. C'est aussi avec ce genre de match qu'on doit poser des questions tout de suite pour pas que dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, on ait une fois de plus une nouvelle émission où on se dise « Ah bah qu'est-ce qui n'a pas marché à Paris ? Ah bah est-ce qu'on n'a pas empilé les stars ? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé là-dessus ? » Voilà. C'est dès maintenant qu'il faut prendre le taureau par les cornes.
Hugo, le constat d'échec, il a été partagé par Mauricio Pochettino qui a justement changé deux de ses milieux de terrain assez rapidement dans le match pour un effet finalement tout aussi nul que le milieu aligné d'entrée.
Et le score final effectivement nul, c'est un peu l'adjectif de la soirée. Entre parenthèses, quand Naïm choisit ses mots, ça donne marteau, ça donne escroquerie. Donc j'aimerais savoir ce que ça donne quand vous vous lâchez un petit peu, mon cher Naïm. Non, effectivement, les corrections apportées par Pochettino, elles n'ont fait, j'ai envie de dire, qu'accentuer le malaise de la première période. C'est-à-dire que le mal ce soir, il était profond et bien répandu dans l'effectif parisien. Il y a eu un plan, y a-t-il eu vraiment un plan ? Ce qui est sûr, c'est que rien n'a fonctionné. S'il y a eu un plan, il n'était pas le bon dans les têtes, tactiquement.
Le plan, c'était de se reposer sur les trois de devant. Hein. Tu sais, ça va être ça. Non,
justement,
il y a 14h.
Ce qui avait été annoncé, alors, quand on entend ce qu'on entend du côté des Herrera, on se dit qu'il faut vraiment pas les prendre au mot, les Parisiens. Mais hier, en conférence de presse, clairement, l'état d'esprit affiché, la communication, elle allait dans le sens de non, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on arrive avec nos trois fantastiques qu'on vous refait le coup des joueurs à talent hors normes qu'on va envoyer au casse-pipe devant pendant qu'on tente de colmater les brèches derrière. On doit jouer en équipe, on doit trouver une équipe, un collectif et pas simplement empiler les noms. Les mots de Marquinhos étaient forts. On ne gagne pas un match avec des noms, on ne gagne pas avant le coup de sifflet final. Bon, là, clairement, les promesses n'ont pas été tenues ce soir. Avec effectivement un milieu de terrain, on pouvait changer les hommes. Alors, on rappelle quand même que Gay n'était pas là et ça compte peut-être. On rappelle également que Verratti n'était pas là et ça compte peut-être également. Mais les Paredes, Draxler, Wijnaldum, Paredes, je l'ai déjà dit. Bon, Herrera, lui, il est bon. Puis en plus, il marque. Enfin, il est pas mal et il marque. Donc, lui, on ne peut pas trop lui en vouloir. Mais le milieu de terrain, ça ne va pas, mais c'est pas une histoire d'homme. On a l'impression que c'est plutôt une histoire d'animation. Effectivement, les trois de devant, on nous avait annoncé qu'ils allaient s'y mettre au travail défensif. En tout cas, Marquinhos disait qu'il leur dirait si jamais ils ne défendaient pas. Bon, on a vu, on les a pas vus très concernés par le pressing. Ils pourraient regarder le match des deux Cattellars, de Noah Lang, de Van Aken, les joueurs offensifs Bruges, de Sao le Ghanéen, pour comprendre ce que c'est des attaquants qui ont envie de récupérer le ballon très vite après l'avoir perdu. Bref, rien n'allait du côté parisien. C'est pas une histoire d'homme ou d'individualité. Ce n'est pas que ça.
Sur l'animation et sur le milieu de terrain, sur le rôle du milieu de terrain pour essayer de travailler avec les trois de devant, on va vite y avoir un problème. Il va y avoir un problème parce que Wijnaldum, à l'heure où on se parle, ça marche pas. Je vais lui laisser du temps, mais on va se parler franchement, ça marche pas. Verratti, c'est un créateur. Il joue entre les lignes, il porte le ballon. C'est pas un 6, il fait pas 15 bandes dans un match et il peut jouer qu'une heure après les cramer. Donc ça veut dire que si tu veux à un moment donné équilibrer ton équipe, on va parler tactique 3 secondes, mais si tu veux équilibrer ton équipe, faut que tu aies soit Herrera, soit Ganagay, soit Danilo. C'est-à-dire un type qui va se sacrifier pour la patrie, qui va faire le boulot que faisait Matuidi à une époque où le PSG ne se chargeait pas d'excuses quand il avait un mauvais résultat. Et puis, il va falloir faire une solution. Soit on met les 4 de devant avec Di Maria et tu vas avoir un milieu de terrain diminué et ton équipe va être coupée en deux. Soit tu vas pas sortir Di Maria, il va falloir trouver un système pour qu'au milieu du terrain, le PSG mette le pied sur le ballon. Ce qui fait cruellement défaut en fait aujourd'hui, c'est qu'ils se sont fait prendre le ballon. Il y avait personne pour mettre le pied dessus. Et qu'est-ce qu'ils ont galéré pour le récupérer? Je veux bien que Wijnaldum arrive, il lui faille du temps, que Paredes, j'ai suffisamment dit, il me sort par les yeux de toute façon. Donc je ne veux plus le voir. Mais, à un moment donné, il va falloir trouver une solution parce que les trois de devant, ils vont jouer. Le club vient de bâtir sa politique, son projet et tout ce qui tourne autour du PSG est bâti sur les trois de devant. Donc ces trois-là vont pas bouger. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir travailler sur le milieu. Et le milieu, celui que j'ai vu ce soir, celui qui tend à se dessiner, c'est-à-dire Verratti, Wijnaldum, et le troisième, très, très certainement Paredes, parce qu'il est copain avec Messi, donc c'est comme ça que ça fonctionne à Paris, ça va pas marcher. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre le taureau par les cornes dès aujourd'hui, parce que le problème que tu as vu ce soir, tu le reverras encore, et pas forcément face à des équipes qui jouent comme on jouait Bruges. Peut-être que le PSG s'en sortira, mais tu auras quand même ce problème-là.
Ça va au-delà des hommes, parce que ça n'a pas été bon non plus en défense, et on sent que c'est aussi dans la tête.
Je suis entièrement d'accord, mais si tu es...
J'ai envie de dire, c'est moins une histoire de casting, je pense
oui,
que le problème est
Hugo,
plus profond.
Hugo, si la défense, je suis entièrement de ton avis, hein, mais si la défense est exposée comme elle a été exposée, si les latéraux se sont fait autant avaler comme ils ont été avalés en première mi-temps, surtout Diallo, ça veut dire qu'au milieu du terrain, tu n'avais pas le pied sur le ballon.
Chérif, Paris s'est trop reposé sur son talent et pas allé assez chercher d'agressivité, ce qu'il faut mettre comme ingrédient dans un match comme celui-là. On l'avait dit hein, dans le premier Radio Foot, ça avait tout du match piège et c'est ce qui s'est passé.
Non mais tout a été dit sur les carences qui ne remontent pas à ce soir. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a peur que les nouveaux arrivants, je parle de Messi, Hakimi, Wijnaldum, on a peur qu'ils soient mazoutés à leur tour par ce blob, cette équipe du PSG qui ressemble pas grand. Paris, Saint-Germain, c'est le seul grand club européen qui n'a pas d'identité de jeu. Vous prenez tous les autres clubs européens, ils ont une identité de jeu. Une identité de jeu, c'est quoi? C'est, comment dire, un système sur lequel on puisse se reposer et que, quels que soient les joueurs qu'on incorpore, ils vont se fondre rapidement. On gardait un œil, évidemment, sur les autres clubs. On a vu l'Ajax, ça ne bouge pas depuis des décennies. Alors, il y a des années, c'est bon, d'autres années, c'est moins bon, mais ils ont une identité de jeu sur lesquelles ils peuvent se reposer. Et c'est clair, ça gagne ou ça perd, mais c'est clair. On voit Paris, quand ça gagne, c'est par à coup, quand ça perd, on n'a pas d'explication. Et là, la crainte qu'on a, c'est de voir que des Messi, attends, je finis, des Messi, des Wijnaldum et des Hakimi se retrouvent mazoutés à leur tour dans un marasme qui dure depuis... Là, je suis d'accord avec toi.
Le souci, Chérif, c'est que les identités de jeu au PSG, ouais, c'est pas qu'il y en a pas, c'est qu'on laisse on laisse pas les entraîneurs les mettre en place. Les entraîneurs qui se sont succédés, que ce soit Laurent Blanc, que ce soit Emery, Tourelle, ils arrivaient avec des idées de jeu, ouais, ils arrivaient avec des projets, avec des propositions. Ouais. Le souci, c'est que rapidement, les joueurs disent non. Nous, on veut pas jouer comme ça. Moi, je veux jouer avec mon copain comme
que
ça.
Dit l'institut.
Et puis, si jamais, si jamais l'entraîneur, il est pas content, s'il fait des histoires, s'il met sur le banc, je vais voir Jean-Claude Blanc, je vais voir Nasser, et puis je fais du boulot, je vais m'en aller.
L'institution.
Voilà. Il n'y a pas d'identité de jeu parce qu'on ne laisse pas les entraîneurs. Je ne crois pas à la théorie où le PSG se trompe systématiquement sur ses coachs parce que ces coachs-là, quand ils quittent Paris, sont super bons. Tourelle, il a gagné une Coupe d'Europe. Emery, il a gagné une Coupe d'Europe. Pochettino, il a fait une finale de Coupe d'Europe avant Paris. Je te jure que s'il part de Paris, il refera un beau parcours. On ne laisse pas les entraîneurs du PSG travailler parce qu'on part du principe, c'est que c'est les joueurs qui commandent. Ce qui compte, c'est le nombre d'occurrences que tu as sur Twitter, de page people, l'oseille que tu as sur ton compte. Est-ce que tu t'es tapé telle actrice ou telle chanteuse? C'est ça qui compte au PSG. L'institution n'existe pas à Paris.
On va très très loin dans le...
Non, c'est la vérité.
Juste une question à Hugo avant de le libérer, parce qu'il y a beaucoup de travail derrière après un match comme celui-là, Hugo. On dit bravo à Bruges, quand même,
ah oui,
parce
quand
qu'on
même,
parle des carences parisiennes. Il y avait un adversaire ce soir qui n'a pas baissé les yeux.
Effectivement, bravo à Philippe Clément, l'entraîneur, qui avait indiqué, qui avait promis hier qu'il y aurait un plan avec le ballon et un plan sans ballon, et un plan avec le ballon quand on... qui est censé vous écraser sur le papier, bah, c'est pas tous les entraîneurs qui le mettent en place. Lui, il a montré que son équipe, elle était capable de bien s'organiser tactiquement pour ne pas trop subir. Finalement, elle n'a pas tant subi que ça, hein, quand bien même il y a eu des occasions, surtout en première période du côté de Paris, avec notamment un arrêt de Mignolet et puis une barre transversale trouvée par Messi. Et puis, offensivement, c'était intéressant. Mais ce que je retiens surtout, c'est le pressing. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le football moderne, le ballon, il doit se récupérer très haut et très vite. Et puis derrière, vous devez être capable tout de suite, en quelques passes, d'aller vite. C'est le jeu de transition et c'est souvent ce qui fait la différence dans le foot moderne. Et ça a été très bien fait par Bruges grâce à Van Aken, grâce aux deux attaquants qui ont été tout de suite présents au pressing, grâce à aux joueurs de couloir. Et je trouve que Bruges a joué un football entre guillemets élémentaire, un football moderne élémentaire, très 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 cohérent et très efficace jusqu'au dernier geste où là ça a été un peu plus brouillon. Bon, il y a un déficit de talent, mais c'était vraiment une belle performance de la part de Bruges.
Je suis pas d'accord, hein. C'est pas qu'un jeu de transition, c'est un jeu de possession qui partait des lignes, il sautait pas les lignes, ça partait des défenseurs, on écartait sur les côtés.
Tu sais ce qui est impressionnant sur leur jeu ce soir, tu sais ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ont gagné tous leurs duels. Tout leur un contre un. Collectivement, je te rejoins, ouais, je rejoins Hugo. C'est propre, ça joue bien, ça combine.
C'est pas que de la transition.
Non, c'est pas que de la transition.
Mais la transition, c'est pas un gros mot. J'ai pas dit contre-attaque. J'ai dit transition, c'est-à-dire que oui, effectivement, il y a les attaques étaient placées, mais avec toujours l'idée d'aller vers l'avant.
Il y a une heure d'attaque placée. Décalage. Et pendant une heure, c'est attaque placée. Je te dis.
Oui, mais elles vont vite, elles sont tranchantes. C'est pas l'attaque placée à toi, à moi. Je sais pas trop où on va, puis on revient en arrière. Voilà, c'est
ce qui est vraiment.
Ça peut faire mal.
Bluffant, choquant et inquiétant, c'est le nombre de 1 contre 1 gagnés. Parce que, une fois de plus, on va pas leur faire injure, mais tu regardes Sowa toute la première mi-temps, ce qu'il fait. Regarde le petit De Jong, comment il a mangé Hakimi, pareil, sur la première mi-temps. Et au milieu du terrain, c'est pareil, des garçons qui sont champions du monde. Draxler est champion du monde en deuxième mi-temps, inexistant.
De Jong ou Lang?
Non, Lang sur le coup. J'ai dit De Jong. Pardon, c'est Lang, désolé.
J'étais en train de me demander quel était ce De Jong que je n'avais pas vu.
Ouais, non, parce que on est sur les pubs. Je suis encore outré de la prestation du Barça d'hier, donc c'est pour ça. c'est ça, moi, qui m'a choqué. Que collectivement, l'équipe, elle a joué comme devraient jouer toutes les équipes contre le Paris Saint-Germain et comme la plupart des équipes jouent en Angleterre quand ils jouent les gros. Ils se prennent des casquettes, hein, mais ils jouent comme ça, en fait. On n'a pas l'habitude de voir ça parce que la plupart des équipes en France qui joue le PSG, ils y vont la culotte baissée et ils jouent dans leurs 20 mètres. Mais la vérité, c'est que tout le monde devrait jouer comme ça. Collectivement, c'est très bien de le faire parce qu'il n'y a pas de stars. Mais à la rigueur, c'est bien, mais ce n'est pas ce qui m'impressionne le plus. Ce qui m'impressionne et ce qui m'inquiète dans l'autre sens, c'est le nombre de duels gagnés par cette équipe. Comment est-ce que c'est possible qu'Hakimi, Diallo, Draxler, par des types qui sont internationaux, qui ont gagné des titres et pas la coupe à Pimpin, ils se retrouvent mangés par des gars qui ont pris 6-1 par la Gantoise il y a 2 semaines? C'est pas normal, en fait. Et en fait, ça n'augure rien de bon. Ça n'augure rien de bon parce que quand tes individualités se font avaler comme ça, c'est-à-dire que t'as un déficit collectif. Quand ton collectif est là, quand ton bloc est là, quand t'as une identité de jeu, ça n'arrive pas. Tu peux perdre un duel en vitesse, en machin. Tu peux pas te manger des passements de jambes et des grands ponts par des types qui étaient en deuxième division russe il y a 2 ans. C'est pas possible.
On va vous libérer, Hugo. Merci beaucoup. Décidément, il se passe toujours quelque chose quand vous êtes dans le stade avec le Paris Saint-Germain. Il faut s'en souvenir pour les prochaines fois.
Enfin, là, j'y suis pour rien. Encore une fois, les joueurs de Bruges, ils ont fait l'essentiel dans à peu près tous les domaines. Donc, vraiment, leur match nul, ils le doivent à eux-mêmes. On va quand même tempérer, Naïm. Ce n'est que le début de saison. Et effectivement, il y a quand même des contingences à prendre en compte, comme cette trêve internationale interminable pour les Sud-Américains, comme le fait que le trio d'attaque, ils jouaient pour la première fois ensemble.
Il y a
pas mal de choses. Non, mais je veux dire, c'est qu'il y a pas mal de choses qui peuvent aussi expliquer la mauvaise forme parisienne, et ça peut monter en puissance, en régime. J'en trouve pas d'excuses. Moi, je pense que c'était surtout, effectivement, il y a aussi quelque chose, et là je vous rejoins, dans la tête, il y a une mauvaise appréhension de l'événement. Et encore une fois, finalement, les recettes de Bruges, elles étaient très simples dans un stade qui est très simple, avec un public chaud. Voilà, il y a quelque chose d'élémentaire dans ce qu'a réussi Bruges ce soir, et c'est une bonne leçon pour nous tous, pour le PSG, pour les tenants de la Super League aussi, puisqu'un club comme Bruges n'y aurait pas accès. Et pourtant, là, il travaille bien depuis quelques années. Il mérite bien de bien figurer en Ligue des Champions et de ne pas être pris de haut par nous autres journalistes et commentateurs français.
Merci beaucoup, Hugo Moissonnier. Bon retour à vous depuis Bruges.
Merci,
bon courage
soirée.
Pour le reste de la soirée. Naïm, Chérif, tiens, d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas entendu. Kylian Mbappé qui sort à la 50e minute, sans trouver d'excuses, encore une fois. Est-ce que ça ne peut pas expliquer aussi en partie la prestation parisienne? Parce qu'il avait été assez percutant, il s'était montré Kylian Mbappé sans être toujours à 100% efficace. Mais il sort à la 50e, blessé, on saura si c'est grave ou pas. En tout cas, visiblement, il y a une petite torsion. Quand Kylian Mbappé s'en va, Paris n'a plus forcément tous les arguments offensifs qu'il aurait pu espérer avoir.
C'est déjà le meilleur Parisien depuis le début de la saison, donc c'est jamais neutre et jamais un hasard et une chance quand on perd un joueur comme ça. Ça a l'air sérieux parce qu'on a vu un peu sur les images, ça a l'air encore le métatarse. C'est... Il y a l'aspect psychologique, il y a les sifflets, on en a parlé, il y a le transfert raté, il y a les douleurs au mollet, en général c'est musculaire, donc c'est dû à la tension, à la pression, à un mal-être, de toute façon, incontestablement. Et puis, quand il n'est plus là, il n'y a plus rien en fait. Il n'y a plus l'hameçon au bout là, qui bouge la ligne, au bout de la ligne, il n'y a plus rien, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus d'appel, ils sont... On voit Neymar, il est cramé, donc ok, d'accord. Bon, on va pas revenir là-dessus. Il est cramé. Messi, il arrive.
Après, il faut pas dire parce qu'après on va dire que c'est parce qu'il fait des voyages en avion et qu'il a fait une tournée interminable. Mais là,
tu parles de qui?
De Neymar. Il y a un truc sur Mbappé, c'est qu'il a déjà la douleur en première mi-temps. Normalement, s'il revient sur le terrain, ça veut dire quelque chose. Il doit sortir à la mi-temps. Le problème, c'est que Pochettino, il sait qu'à la mi-temps, s'il sort Mbappé, il sort son joueur le plus dangereux.
C'est ça.
Et qu'il sait très bien qu'en faisant rentrer Icardi, il va perdre en qualité. Déjà, c'est pas le même profil. Mais surtout, il sait que l'autre, il met pas un pied devant l'autre, qu'il va perdre. Donc, c'est pour ça qu'il remet. Et tu te rends compte, l'aveu d'impuissance, même que ce soit Mbappé, l'aveu d'impuissance de Pochettino, de remettre face à Bruges un joueur blessé pour tenter de marquer et de gagner le match. Alors que la vérité, avec l'effectif de Paris, avec ce que Paris doit proposer normalement, Mbappé, le ndouleur, tu le sors. Même pas parce que t'as Lyon dimanche, mais parce que t'es au mois de septembre et que t'as encore toute une saison à faire derrière. Ça aussi, c'est révélateur de ce qui se passe à Paris.
On n'a pas vu Lionel Messi non plus. Il fait un match extrêmement discret par rapport à ce qu'on pouvait en attendre.
Messi, faut rétablir la vérité. En Ligue des Champions, ces dernières saisons, c'était pas extraordinaire. Rappelez-vous, le match qu'il fait l'année dernière au Parc des Princes, il fait une très très bonne première mi-temps, excellente. Il disparaît en deuxième. Et ça, c'est fréquent, ça arrive. Va falloir aussi faire avec un Messi à 100%. De ses capacités et à 100% des matchs, il va falloir faire une croix dessus. Il est déjà sur le déclin. Je dis pas qu'il est fini. Non, mais là, à la deuxième mi-temps, on le voit pas.
Messi, à Paris, à Barcelone, en Argentine, Messi, il est fort quand son équipe a le ballon. Parce que déjà, quand l'équipe a pas le ballon, lui, il court pas pour le récupérer.
Bien sûr.
Et si en plus les autres le récupèrent pas et lui donnent pas, il fera pas d'effort.
Non, bien sûr.
Donc, Messi, ceux qui pensent qu'il est venu à Paris pour faire 20 bornes dans un match, j'ai envie de vous dire, allez vous jeter à l'eau. Et puis, deuxièmement, Messi, il va être bon sur sa qualité de passe. En première mi-temps, sur le temps fort du PSG, sur 2-3 touches de balle, il trouve Mbappé, il trouve Neymar, il trouve un décalage, il trouve la barre. Et si ça rentre, tout le monde crie au génie, c'est extraordinaire, ça fait le tour du monde. Mais Messi, il sera bon quand le PSG aura le ballon.
Mais même avec le ballon, c'est que, il disparaîtra.
Qu'il fasse plus 90 minutes à 34 barreaux, je peux l'entendre. Mais la vérité, c'est que si Paris a le pied sur le ballon, tu le vois beaucoup plus. Même si t'as un Neymar qui est moins bon.
Non, mais je suis d'accord.
On regardait d'ailleurs avant le match beaucoup cette attaque, mais le plus inquiétant, c'est la défense.
Diallo,
ils ont été dépassés par le
Diallo. Non, je suis d'accord avec Neymar.
Diallo, pour le coup, fait plutôt... Pour le coup, à gauche, c'est une solution qui s'est... Alors maintenant qu'il y a Mendes qui est arrivé, je pense qu'il va repartir sur le banc. Mais pour le coup, à gauche, c'était une solution assez intéressante. En l'absence de Bernat, moi, je préférais voir Diallo que Kurzawa, très sincèrement, ou que Mitchell Baker.
C'est fini, on va dire
que Diallo, à la rigueur, c'est là, aujourd'hui, c'est vraiment fait avaler. C'est assez surprenant parce que, pour le coup, il a fait des matchs plutôt intéressants. Par contre, Kimpembe, déjà à l'Euro, il est pas bon. Son début de saison n'est pas bon. Et je me dis, on a fait venir Ramos, je crois pas que les dirigeants du PSG et Leonardo soient complètement idiots. Tu fais pas venir Ramos, même si c'est un grand défenseur et que ça incarne je sais pas quoi pour ton projet, tu fais pas venir Ramos si t'as pas une idée derrière la tête. Et des deux, tu sais très bien que c'est pas Marquinhos qui va sortir. Donc je pense qu'à un moment donné, Kimpembe, c'est très bien que ce soit peut-être le seul français de l'équipe, un mec de l'île, de la banlieue parisienne, formé au club, ça peut représenter pour les jeunes, dehors. Maintenant, tu changes dehors.
Pour l'instant,
défenseur,
shérif. Pour l'instant, Ramos est blessé. On ne sait pas quand il va revenir, donc tu vas faire avec. Maintenant, pour revenir à Diallo, en fait, il y avait qui dans le couloir gauche devant ? Tu avais Wijnaldum, qui n'a pas été bon. C'est un tout. À partir du moment où la défense est là en difficulté, c'est-à-dire quand elle prend la vague, les 1 contre 1 dans les duels, ça veut dire que les milieux n'ont pas fait leur boulot. Et c'est ça qui m'inquiète, parce qu'on est parti a priori sur du Paredes, sur du Wijnaldum. On les a fait venir justement pour stabiliser le milieu de terrain, c'est ça, pour trouver l'équilibre que cette équipe de Paris n'a pas. Et en fait, on se rend compte que l'équilibre n'est toujours pas trouvé. C'est le début de la saison, je suis d'accord avec toi. Vijalou, on va lui laisser encore une chance. Il n'y a pas de raison qu'un joueur qui était titulaire à Liverpool ne s'impose pas à Paris. Mais pour l'instant, quand on n'a plus de milieu de terrain, évidemment, les attaquants ne défendent pas. Ça, c'est là, va falloir
mais
faire
ça,
avec
eux. Ça, c'était
non, mais ça, on sait. Non, évidemment, évidemment.
On les signait,
mais attends,
on savait.
Mais quand t'as un milieu à trois, parce qu'on a parlé un milieu à deux, un milieu à trois, quand t'as un milieu à trois qui font pas le boulot, genre même Marquinhos a été en difficulté. Il s'en sort parce que c'est Marquinhos, c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde. On est d'accord.
Il est en difficulté parce que ce soir, il a trois pompes à vélo à côté de lui.
Mais je suis d'accord. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as même plus de milieu pour te protéger. Et ça, c'est inquiétant. On avait tout misé.
Ouais, Kimpembe, c'est pas qu'une histoire de milieu.
Non, mais je suis d'accord.
Même en équipe de France, il a la ramasse.
Je suis d'accord. Quand une attaque prend la vague, c'est-à-dire qu'il y a plus de milieu de terrain. Et ça, c'est inquiétant parce que c'est là-dessus qu'on avait bossé cette année. Est-ce que cette équipe va trouver son équilibre? Pour l'instant, non.
Il y a trois défenseurs qui sont arrivés. Hakimi, Mendes, Ramos. Les trois viennent pour jouer. Alors, Mendes, parce que Bernat est blessé et que sa blessure est curieuse et qu'il revient pas.
Voilà.
Ramos, quand bien même il incarnerait je sais pas quoi, tu sais que le mec il vient pour jouer. Et Hakimi, t'en as besoin, t'as personne d'autre à droite. Ou alors t'as Kerrer, mais bon. Donc c'est-à-dire que les trois viennent pour jouer. Donc c'est-à-dire que moi je veux bien qu'on me dise ouais mais le milieu, c'est vrai que le milieu j'en ai parlé, ils ont été catastrophiques ce soir. Mais à un moment donné, si les mecs que tu fais venir, ils sont déjà pas au niveau, Hakimi ce soir il est à la ramasse. Hein. Ce soir Hakimi fait pas un bon match. Ramos je sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Donc tu vas avoir une défense aux trois quarts neuve. Va aussi falloir qu'elle se fasse des automatismes, va aussi falloir que ça travaille. En Ligue 1 je suis pas inquiet parce que globalement le PSG aura le ballon et que t'as moins de qualité, c'est pas les mêmes types d'équipes que tu vas avoir en Ligue des Champions. Mais en Ligue des Champions, tu n'as pas le temps. Tu peux pas dire ma défense est expérimentale, mon latéral est arrivé il y a 3 semaines, lui c'est son premier match de Ligue des Champions, l'autre il a été baissé au mollet. Non, non, non. En Ligue des Champions, t'arrives, t'es bon tout de suite, à l'instant T. Tu n'as même pas un quart d'heure pour te chauffer, t'es bon tout de suite. La défense du PSG, à l'heure où on se parle, n'est pas bonne. Yeah. Il y a deux matchs à faire, City, Leipzig. Quand bien même les deux seraient à domicile, ce qu'on voit ce soir de la défense face à Bruges ne rassure pas sur les échéances qui arrivent.
Et c'est le prochain match, effectivement, du Paris Saint-Germain dans 15 jours contre Manchester City. City qui, ce soir, 6-3 face à Leipzig. Du côté de Leipzig, quand même, à noter un triplé d'un ancien parisien, voilà. Christopher Nkunku.
Qu'on va, dans deux de la tête.
Qu'on va écouter, d'ailleurs, Christopher Nkunku.
Je pense que ouais, c'est le niveau de la Champions League. La Champions League, c'est à chaque erreur, ça paye cash. Et je pense qu'on a fait pas mal d'erreurs individuelles qu'on ne doit pas faire à ce niveau-là. Après, oui, j'ai marqué 3 buts. À chaque fois qu'on a marqué, on a encaissé. Je pense qu'il fallait un peu plus de concentration quand on a mis le but. Et on n'a pas eu ce moment de concentration. Et ils ont pu remarquer derrière. On connaît la qualité de City et ils ont pu la montrer tout de suite.
City qui met 6 buts d'entrée à un adversaire qui est pas le plus faible du groupe a priori.
Non, mais un début de
saison. Tant mieux pour Paris. Oui.
Tant mieux pour Paris.
Bah Leipzig,
son prochain adversaire n'est déjà mis 6. Oui.
Non. Par rapport à Leipzig.
Oui, par rapport à Leipzig. D'accord.
Moi, City, c'est.
Après. Alors évidemment, 6 buts en Ligue des Champions face à une équipe qui a l'habitude de sortir des poules. Qui truste la deuxième, troisième place régulièrement maintenant du championnat allemand. C'est impressionnant, surtout à ce moment de la saison. Mais a priori, ils n'ont pas de Sud-Américains, contrairement à d'autres. Mais c'est impressionnant. Après, on s'est fait la réflexion avec Sheriff. Ils en ont quand même pris 3.
Ils en ont pris 3. City,
ils en ont quand même pris 3.
C'est pas normal.
Et puis, en championnat, ils ne font pas non plus que des prestations abouties. Donc je pense que ça mérite encore un peu d'être rodé, mais c'est vrai que c'est plus qu'impressionnant de voir ce qu'a fait Manchester City ce soir, avec combien de buteurs différents ?
Pratiquement 6
T'as eu Mahrez, ouais. T'as Gabriel Jesus,
Mahrez, Grealish, Cancelo et Gabriel Jesus.
Sur tout, voilà. Toutes sortes d'actions, sur un corner, sur un coup franc, sur une balle en rupture, sur tout.
Sachant que Manchester City est capable, lui, d'utiliser deux équipes avec quasiment la même qualité. Donc, après, on va pas se mentir, hein, ils nous ont éliminés en demi-finale de Ligue des Champions l'année dernière. Manchester City sur le papier, quand bien même il y aurait Messi, maintenant à Paris, ça reste l'équipe qui fait le plus peur dans le groupe. C'est celle qui a priori va terminer première parce qu'elle est plus cohérente, ne serait-ce que sur la défense, même si elle prend 3 buts ce soir, il y a plus de qualité défensive à l'heure où on se parle à Manchester City qu'au Paris Saint-Germain. Donc c'est le gros morceau. Mais après, si Paris, dans deux semaines, fait, parce que ce sera au Parc, fait une prestation aboutie contre Manchester City, ça sera bien, mais au vu de ce qu'on a vu ce soir sur les deux terrains, c'est pas gagné. Hein.
Les clubs anglais qui réussissent plutôt bien ce soir, puisque Liverpool s'impose 3-2 face au Milan AC. Là aussi, sacré match, un pénalty raté par Mohamed Salah qui se rattrape en marquant à la 50e minute. Dans ce même groupe, l'Atlético et le FC Porto se sont neutralisés 0-0. Poule C, victoire de Dortmund 2-1 sur Beşiktaş avec un but de l'inévitable Erling Haaland. Et puis dans ce même groupe, eh ben, l'Ajax a un héros nommé Haller.
Segunda para uma boa defesa de Paz Vira, de São Masraoui por dentro, joga para Haller, atenção a Haller e faz o 5-1. Haller a fazer um póquer em Alvalade, a figura da noite, o francês que castiga o Sporting pela quinta vez esta noite.
5-1 pour l'Ajax contre le Sporting. Et un quadruplé de l'international ivoirien Sébastien Haller. Pour la petite statistique, c'est le premier joueur à inscrire un quadruplé pour sa première en Ligue des Champions depuis Marco Van Basten en 1992. Ça encore, le place au niveau d'un...
Encore un Ajacide. Non, mais c'est
ça
bien.
Le place au niveau d'un Ballon d'Or.
Oui. Non, mais c'est bien parce que l'année dernière, il avait pas été inscrit par Mégarde. Et là, on revient, on a l'impression qu'il rattrape le temps perdu, donc avec un quadruplé d'entrée. Et on se dit que ils vont récupérer Onana, bon évidemment qui est suspendu aussi pour motif de dopage. Quand ils vont récupérer Onana aussi, je pense qu'ils vont aller jusqu'en demi-finale. Non. On a vu l'Ajax, c'est une belle machine, c'est une belle mécanique. Et que t'as dit
la demi-finale.
Pardon.
La demi-finale, c'était une blague.
Non, mais je plaisante.
Ah oui.
Je dis que je plaisantais avec Onana. Mais l'identité de jeu, elle est là. Ils gagnent 5-1 à l'extérieur et tout. Donc là, on espère quand même les voir cette année, au moins arriver en huitième. Ça va pas être facile, mais bon, c'est bien parti. Et voilà.
Après, il y a une interrogation sur l'Ajax, c'est comme très souvent d'ailleurs, ça joue très bien devant, ça combine bien avec Anthony, avec Tadić, ce que vous voulez. Mais le problème, c'est que comme le Sporting a été très très faible, j'arrive pas à me rendre compte défensivement ce que ça peut faire face à une équipe
friable,
comme Dortmund.
Non, je suis d'accord.
Même
suis d'accord.
Face à Beşiktaş, alors qu'il n'a pas été très bon aujourd'hui, je vous le garantis.
Ouais.
Mais il va y avoir un match contre Dortmund, vous allez jouer Reus, vous allez jouer Haaland, vous allez jouer Bellingham, vous allez jouer tout un tas de joueurs très bons.
Non, je suis d'accord.
Voilà, j'attends de voir un peu ce que c'est pas d'accord. Une équipe comme très souvent l'Ajax, un peu coupé en deux, on est très bon devant, puis on est très faible derrière.
Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. C'est l'Ajax, avec leurs moyens, avec les petits jeunes qui arrivent. La moyenne d'âge, si t'en enlèves deux ou trois, on est encore à 20-22 ans de moyenne d'âge. C'est beau, c'est tout. Ils ont fait leur match.
Ça les place en tout cas en tête cette poule C devant. Bah,
de toute façon,
à égalité de points avec Dortmund.
Avec Sporting et Beşiktaş, alors je ne veux pas dire qu'ils assurent une place dans les deux, mais
on va attendre.
Tu dis, au pire des cas, ils seront en Ligue Europa.
Pire des cas, ils sont en Europa. On va attendre.
Et donc, à côté de la performance de Sébastien Haller, à noter deux autres buteurs africains, Adama Traoré et Momo Yansané, tous les deux pensionnaires du Shérif Tiraspol, qui s'est imposé 2-0. Sur le Shakhtar Donetsk, le club moldave qui poursuit, qui continue à entretenir cette magie. C'est leur première participation en phase de groupe de la Ligue des Champions. Et donc une victoire pour fêter ça. Et puis dans ce même groupe, la victoire in extremis du Real Madrid sur l'Inter Milan, le hold-up de la soirée.
Ouais, avec un but magnifique de Rodrigo, qui est lui aussi sud-américain et qui a priori n'a pas fait de tournée.
Sur un service de
Camavinga, qui est entré en jeu. Les deux sont entrés en jeu en plus. Les deux sont entrés en jeu, donc coaching gagnant d'Ancelotti. Alors a priori, ça n'a pas été un grand match. J'ai l'impression que le Real en plus a souffert sur les images qu'on a vues, nous, un peu sur le multiplex.
Ouais.
Mais aller prendre 3 points à Milan, dans un groupe où il y a justement Tiraspol et puis Donetsk, quand on se rappelle les difficultés du Real l'année dernière.
Et on se rappelle aussi des difficultés de l'Inter qui n'avait pas passé le premier tour, tu te rends compte, ils sont déjà mal partis là.
Et ouais, rien prouve qu'ils le passeront cette année.
Ah non, en plus, oui, on est d'accord.
Et on se souvenait des difficultés de Camavinga à Rennes. Et là, il arrive, il a déjà un but, une passe décisive à son actif avec le Real. C'est plutôt pas mal pour un joueur qui aurait joué la Conference League cette saison s'il n'avait pas été transféré.
Il y a des mecs qui disent qu'il est mieux entouré au Real qu'à Rennes. Chacun se fait son avis.
Il y a des mecs qui disent.
Il y a des mecs qui disent.
Il y a des mecs qui disent. Eh ben moi, je dis qu'on passe à la Ligue Europa. Every Saturday we follow. We cheer the boys in blue. The most successful team in football. We're Scotland's gallant few. Ça, c'est l'hymne des Rangers.
Très bon.
C'est beau.
Par un gars.
Glasgow Rangers.
Non, c'est bien, c'est pas rien. C'est pas les cœurs des supporters.
Il y a un petit côté U2 qui est assez,
assez
appréciable.
Un peu. Mais c'est Rangers, bien, c'est mélodique. C'est mélodique.
Les Rangers, si on en parle, c'est parce qu'ils affrontent l'Olympique Lyonnais demain pour la première journée de phase de groupe de la Ligue Europa. Il y a beaucoup de liens d'ailleurs entre Lyon et l'Écosse. En préparant l'émission, je me suis rendu compte que Jozan Denayer était passé par le Celtic en 2014-2015. Moussa Dembélé qui sera absent demain
Celtic,
avait joué au Celtic également. Pas... Et puis Steven Gerrard.
Steven Gerrard, qui est passé par Lyon également.
Qui est passé sous les ordres d'un Lyonnais. Qui est passé sous les ordres d'un Lyonnais, Gérard Rouillet, qui est décédé l'an passé. Il lui a rendu un bel hommage d'ailleurs, Steven Gerrard.
Et les deux s'étaient affrontés en 2008, c'est ça ? Pour une victoire 3-0 là-bas avec un but de Benzema.
Voilà, et Lyon, qui va débuter par un match. C'est jamais simple d'aller à Ibrox Park.
Non, c'est jamais simple. Après. Évidemment, c'est une équipe entraînée par Steven Gerrard, ils sont champions d'Écosse, faut pas minimiser les performances, surtout celle de Lyon depuis 2-3 ans. Le problème, c'est que le championnat d'Écosse est tellement faible, il y a deux équipes, hein, tout le monde le sait, c'est soit eux, soit les Celtics. Donc en gros, la seule référence qu'on a pour essayer de juger un peu le niveau, c'est ce qui se passe dans les tours préliminaires de Ligue des Champions. Ils ont été éliminés par Malmö. Alors, on va pas non plus péter plus haut que nos fesses et dire « Ah ben, c'est déjà gagné d'avance », mais à un moment donné, si Lyon n'est pas en mesure de battre une équipe qui a été éliminée par Malmö en barrage de la Ligue des Champions, faut que Lyon arrête définitivement la Coupe d'Europe.
Comment se porte Lyon, Naïm, Lyon, en début de saison ?
Écoute, je te dirais...
Est-ce qu'on a toutes les garanties ?
Je te dirais que pour une équipe qui vient de changer de coach, qui a changé pas mal de joueurs, qui a notamment perdu celui qui détenait depuis 2-3 ans, c'est pas si dégueu que ça. Les résultats sont pas franchement au niveau. En fait... T'as eu ce qui a vraiment posé problème, c'est le 3-3 contre Clermont. Ouais. Ils menaient 3-1, ils se font rattraper. Là, tu peux interroger, est-ce que t'as pas des cadres, est-ce qu'il te manque pas des cadres, des leaders, des types avec un peu de caractère. Boateng vient d'arriver, Shaqiri, machin. Ouais. Ça peut changer. Emerson,
c'est mieux,
notamment.
C'est mieux.
Sur le jeu, ce que met Peter Bosch en place, c'est pas moche. Ça demande à être peaufiné, ça demande
c'est
à être machin.
Compte, hein.
Moi, j'ai hâte de voir Shaqiri, Dembélé quand ils auront 10-15 matchs. Ensemble avec Oussem Aouar derrière, ça peut être propre. Maintenant, comme je te dis, faut pas non plus aller là-bas la fleur au fusil en disant ouais, mais Rangers machin. Enfin, on va pas non plus se créer un faux suspense et se faire peur. Lyon est favori, tu vois.
C'est ce que je pense aussi, mais Lyon c'est pas encore abouti en début de saison. Ça promet, on commence à voir des belles choses, mais voilà, il y a une ambiance là-bas, il y a une mystique avec Steven Gerrard, avec l'équipe, les mecs se sont dépouillés, ils ont fini champions, ça a été une fête comme on en a rarement vu, enfin depuis très longtemps. Pas oublier qu'ils reviennent de, je sais plus, 3ème division.
4ème.
C'est une vraie résurrection, les Rangers.
Et il y a une mystique de la Coupe d'Europe au Celtic et chez les Rangers. Toujours. Il y a une mystique de la Coupe d'Europe. Donc, les mecs, ils se donnent une dimension supplémentaire. Et si tu les prends pas au sérieux, on est d'accord, ça peut très très mal tourner. Ça peut me tourner au vinaigre.
Des trois clubs engagés, des trois clubs français engagés dans cette première journée de Ligue Europa, c'est Lyon le moins bien loti. On rappelle que Monaco affronte le Sturm Graz, l'équipe autrichienne, et que Marseille est en déplacement chez le Lokomotiv Moscou.
Non, je pense que Marseille, c'est un peu plus dur quand même. Lokomotiv Moscou, c'est meilleur que les Rangers. Ne serait-ce que parce que le championnat russe est meilleur que le championnat écossais.
C'est pas super les clubs russes
en
Coupe d'Europe.
Oui, mais t'as une concurrence quand même qui existe en Russie, qui existe pas en Écosse.
Ah non, mais le championnat, il est supérieur, je suis d'accord avec toi.
Le championnat est supérieur, donc
Marseille est dans un gros groupe. Naïm, regarde comment les clubs russes en Coupe d'Europe sont décevants. très décevant.
Parce qu'avec le français, on est comment?
Ah non, mais attends.
Ah non, mais tu vois, ils sont pas pires que nous en réalité. Hein. Je pense que le Zénith Saint-Pétersbourg, ce soir, s'il joue le PSG qu'on a vu là, il peut gagner. Hein. Donc, tu vois,
le Zénith ferait une exception. Mais après, pour le reste, c'est toujours décevant, les clubs russes.
C'est, jouer en Russie, une équipe de Moscou, c'est jamais simple. C'est jamais simple. Et puis, le groupe est compliqué. Il y aura Galatasaray, il y aura la Lazio. Et c'est presque l'équipe la plus abordable. Donc, imagine pour l'OM. Donc, il y a quand même un peu de pression. Après, je dirais que l'OM est tellement séduisant sur ce début de saison. Ils jouent bien. Ils font tellement plaisir. Voilà. Par rapport à Monaco, qui joue un club un peu pété, Sturmgrass, mais qui a fait qu'une seule victoire cette année, c'était contre 3. J'ai presque envie de te dire que Monaco, qui a un adversaire
beaucoup
plus faible sur le papier, c'est presque plus inquiétant. On va dire que Lyon-Marseille, ça va passer. Pas forcément de manière incroyable, mais ça va passer. Ouais. Monaco, un petit peu plus dur.
Marseille, qui va s'en remettre un petit peu à Sampaoli, l'entraîneur, si fantasme pas très expérimenté du point de vue européen, c'est pas forcément forme de plafond de verre.
Les Ligues des Champions sud-américaines, il en a fait 3-4 quand même.
Hein. Après, on parle de Marseille.
Oui.
Non, mais il y a...
Moi, j'ai toujours cru que le Brésil est en Europe. Et le Chili également. Mais déjà, voilà, on peut en apprendre tous les jours.
C'est une géopolitique récente.
D'accord.
Il y a aussi une mystique de la Coupe d'Europe à Marseille. On la connaît. Après, est-ce que pour la suite, concilier les deux, on en a parlé, championnat et Coupe d'Europe, on va voir un peu ce que ça donne parce que c'est un jeu qui est très énergivore, le jeu olympique de Marseille. Mais là, ils sont sur une dynamique.
Il y a deux choses qui plaident en faveur d'une victoire de l'OM. C'est le jeu, c'est la dynamique, c'est tout ce qu'on voit. C'est même pas l'histoire de Sampaoli à la rigueur, parce que même les joueurs sont nettement plus forts. Mais c'est surtout, t'as tellement eu une déconvenue l'année dernière où ils se sont pris des sauces face à l'Olympiakos, face à Porto, où ça fait 10 ans qu'ils se font soulever en Ligue des Champions. La Ligue Europa, c'est un niveau en dessous. Je pense que c'est un peu plus le niveau de l'OM. Et je pense qu'ils ont tellement à se faire pardonner, notamment par rapport à ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions l'année dernière, que là, cette année, on peut, je pense, pas s'avancer non plus, mais je pense qu'on peut miser sur un beau parcours européen de l'OM.
C'est là où j'allais en venir. Étonnamment, il se pourrait qu'on ait les trois clubs français dans la compétition qui leur convient le mieux, c'est-à-dire l'Europa League cette année, avec Lyon, quand ça va se mettre en place. Marseille, s'ils maintiennent cette dynamique, et Monaco, s'ils retrouvent un peu la dynamique de l'année dernière, je dis pas qu'ils vont la gagner, qu'ils vont atteindre le dernier carré, mais là, on a vraiment les trois clubs qu'il faut. Ils auraient eu aucune chance en Ligue des Champions. C'est clair et net, on est d'accord. Voilà, ils sont dans la compétition, qui leur va le mieux. On peut attendre quelque chose de bien quand ça va se mettre en place.
Deux affiches, majeures, on va dire, dans cette première journée de phase de groupe de Ligue Europa, il y a ce Galatasaray Lazio qui est alors c'est peut-être pas deux équipes qui brillent au plan européen, mais ça promet une ambiance assez
chaude,
dingue, parce que les supporters des deux clubs, c'est quand même.
Alors est-ce que j'ai pas eu l'info, est-ce que l'UEFA a autorisé les supporters italiens à se déplacer en Turquie?
A priori non.
Non.
Mais j'ai pas vu ça.
Pourquoi non? S'il y a pas de jauge, pourquoi non? Ils vont y aller. C'est-à-dire que nous, en France, on va interdire les supporters de Châteauroux d'aller à Pau, mais à l'UEFA, n'interdit pas les supporters de la Ligue.
Est-ce qu'il y avait une interdiction la saison d'avant?
Non, je crois pas.
Bon.
Je crois pas. Mais après, t'avais pas de supporters. Non, mais sur le papier, la Lazio est favorite. Ça me paraît évident. Le championnat italien au-dessus du championnat turc. Galatasaray, c'est nettement moins bien depuis quelques années.
Comme tous les clubs turcs.
À domicile, les Turcs, il se passe tellement des trucs dans leurs tribunes qu'ils sont transcendés. Mais moi, je mettrais quand même la Lazio favori, et je mettrais la Lazio favorite du groupe, de toute façon.
Ouais.
Et pour aller même assez loin dans la compétition. C'est pour ça que je te disais que pour l'OM, ce serait bien de prendre 3 points en Russie, parce que c'est presque l'adversaire le plus abordable. Cette équipe de la Lazio, c'est vraiment à suivre.
Et puis, il y a ce Leicester-Naples, à une époque pas si lointaine, c'était encore une rencontre de Ligue des Champions.
Et attention,
maintenant, c'est grosse pièce la Ligue
sur
Europa.
Très grosse pièce sur Napoli.
Napoli.
Ouais, ce que Spalletti fait, c'est beau. Ouais. Moi, j'ai vu le match de la Juve. Ils ont pas tout bien fait sur 90 minutes, mais quand ils ont joué et que ce qu'ils avaient à faire, ils l'ont bien fait, c'était d'un très haut niveau au mois de septembre. C'était déjà d'un très bon niveau.
Mais c'est pas que cette saison.
Ils ont quand même changé d'entraîneur et que ça s'est pas super bien passé avec le dernier, tu pourrais dire. Tu sais, en France, on appelle ça une année de transition. Ça dure 10 ans, mais on appelle ça une année de transition.
Pas de transition non,
en Italie, là-bas, ils transitionnent pas dans la transition, ils enchaînent direct. C'est... Et puis, Leicester, moi, j'ai de plus en plus un vrai souci avec Schmeichel. C'est-à-dire que j'aime bien le joueur, j'adorais son père. J'aime bien le gardien, je trouve qu'il a gagné une cup, il a été champion avec Leicester. Mais moi qui suis très souvent en face le foot anglais, je pense que c'est le pire gardien au pied du monde. Sans déconner.
Au pied du monde.
Je pense que au niveau du jeu au pied.
Ah.
Je pense que c'est le pire gardien du monde. Et je trouve que c'est une équipe qui prend tellement de buts casquettes. La défense c'est pas terrible parce qu'en plus ils prennent Fofana, Lottis Pett, donc en plus ils sont un peu handicapés là-dessus. On n'a pas le même Soyuncu que l'année dernière. C'est franchement, je trouve qu'il est moins bon, mais globalement les joueurs turcs qui étaient très bons l'année dernière depuis l'Euro sont tous un cran en dessous. Et c'est une équipe qui prend des buts, qui est moins performante. Ça se repose encore
fort,
sur. Oui, ça se repose.
C'est
mais
moins
ça,
fort.
Ça se repose encore sur Vardy.
Oui, je sais. Ouais.
Et qui fait le job, ouais, hein, qui tient le truc, mais de manière un petit peu moins importante qu'il y a quelques années. Donc moi, je mets grosse pièce sur le Napoli.
Oui,
mais.
Leicester-Napoli, 19h, temps universel, tout comme Monaco-Sturm Graz et Rangers-Lyon, Marseille contre le Lokomotiv Moscou, ce sera 16h45, temps universel, tout comme Galatasaray-Lazio. Un petit mot, messieurs, pour finir, on a quelques minutes pour parler de cette nouvelle compétition, cette Conference League, cette nouvelle Coupe d'Europe pour les frustrés de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa, ceux qui soit ne sont pas qualifiés, ont raté leur saison précédente, soit n'ont pas tout simplement le niveau pour y aller. Et quand je parle de cela, je parle de Rennes, le club français engagé demain qui va jouer contre...
C'est pour ça qu'elle a été créée, du coup, cette compétition.
Pour Rennes ?
Certainement pour Rennes, bien sûr.
Donc c'est pas elle rien a été créée... à voir avec le fait de vouloir récupérer de l'argent par l'UEFA, on est
d'accord. Elle a été créée pour Bruno Genesio, l'entraîneur du stade rennais, qui va demander à ses joueurs, a priori, à Marie Traoré, le Malien et les autres, qui va leur demander d'élever un petit peu leur niveau de jeu.
Certains l'ont déjà vécu. C'est vrai qu'on a un groupe jeune. Je suis là pour les rassurer, pour leur apporter mon expérience de la Coupe d'Europe. Et l'expérience, c'est aussi savoir que dans ces matchs-là, on se doit d'élever nos niveaux dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'on doit encore élever notre niveau de jeu au niveau technique, au niveau tactique, au niveau de la concentration, au niveau physique. Et ce sont déjà dans ces domaines-là où on doit mettre le curseur beaucoup plus haut que ce qu'on peut mettre en Ligue 1.
Rennes qui a perdu Eduardo Camavinga, Rennes qui perd des matchs depuis début de la saison de Ligue 1, qui affronte Tottenham, mais qui doit élever son niveau de jeu. Est-ce qu'il en sera capable, tout simplement ?
Comme on dit, c'est une compétition surnuméraire pour Rennes. On les a vus en Ligue des Champions déjà, ils avaient complètement du mal à concilier les deux. Cette année, c'est encore moins bien. Donc, on leur souhaite de faire des beaux matchs, d'aller à Tottenham, de tâter un peu de l'ambiance anglaise.
Stop, je reviens 3 secondes en arrière. Ouais. On leur souhaite d'aller à Tottenham. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'ils jouent Tottenham. C'est qu'ils pas capables d'élever leur niveau face à Reims, mais ils jouent Tottenham.
C'est ce que je te dis, on leur souhaite
ils n'y arriveront pas.
Non, laisse-moi finir. On leur souhaite de faire des beaux voyages. Mais l'année dernière, de toute façon, ils n'avaient pas le niveau, ils ne l'auront pas cette année, c'est tout.
Non. C'est une équipe qui rate son début de saison, qui a pas mal recruté. Moi, je trouve que le recrutement est plutôt intéressant sur le papier. Mais la mayonnaise prend pas. Est-ce qu'elle prendra dans quelques mois, dans quelques semaines, je sais pas. Là, à l'instant,
mais en plus, ça va les perturber plutôt qu'autre chose.
Puis au niveau des gardiens, en plus, ils sont vraiment très pauvres. Ouais. Je trouve que c'est vraiment un poste où ils sont en difficulté. Puis ils jouent Tottenham. Alors, on peut me dire, ils ont pris 3-0 contre Crystal Palace. Mais enfin, excusez-moi, en face, il y a Son, il y a Harry Kane. Bon. Rien que ça, quoi. Donc non, je vois pas Rennes faire un exploit contre Tottenham en Conference Cup, monsieur.
Tottenham, 7e de Premier League actuellement, donc face au Stade Rennais. Il y a aussi un AS Rome, CSKA Sofia, l'AS Rome de José Mourinho.
Qui est bien parti.
Qui est bien parti, effectivement.
Pas mal de blessés, quand même.
Ouais.
Bon, après, attention, je dis pas, en face, c'est Sofia.
Ouais.
La logique voudrait qu'il les soulève. Mais il y a beaucoup de blessés à la Roma. Mais c'est vrai que c'est intéressant, la Roma. C'est vrai.
Ça donnera au moins un petit intérêt à cette Conference League. Au moins jusqu'à la fin de la saison, qu'on comprenne pourquoi elle est là, cette Coupe d'Europe. Merci, Naïm Moniol. Merci, Chérif Guémour, d'avoir été avec nous. Maestro Salerno aux manettes. Merci également à David Finzel. On se retrouve demain pour un nouveau Radio Foot.